Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Emmanuel Venet autour de son livre Schizogramme, paru aux éditions La Fosse aux Ours, le 16 mars 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir, merci à toutes et tous d'être là ce soir. Nous sommes heureux d'accueillir Emmanuel Venet, écrivain et psychiatre, à l'occasion de la parution de son livre Schizogramme, paru aux éditions de La Fosse aux Ours. La modération est assurée ce soir par Patrick Estrade, qui est là, infirmier de secteur psychiatrique au centre psychothérapique de Lavore, et Laurent Morlon, psychologue clinicien à l'hôpital Marchand de Toulouse. La rencontre est enregistrée par notre partenaire TV Bruit. Elle sera disponible dans quelques semaines. Sur notre site internet et sur le site internet de TV Bruit. Je vous rappelle que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de notre cycle autour de la psychiatrie. Et demain, nous accueillons Olivier Brisson pour une rencontre autour de son livre pour une psychiatrie indisciplinée. Voilà, bonne rencontre.
Écoutez, merci. Alors, je vais mettre des lunettes, tiens, pour commencer. Ça m'aide. Alors, j'ai demandé à Laurent un petit peu d'aide. On a avec l'idée de reconstruire un micro collectif, finalement, pour s'appuyer dessus. C'est assez rassurant. Quelques mots pour présenter Emmanuel Venet, écrivain et psychiatre, ça a été dit. Psychiatre retraité depuis peu. Il a travaillé comme chef de clinique et assistant dans le service de Jacques Hockmann, puis au Vinatier. Il a pratiqué au quotidien une psychiatrie humaine, relationnelle et profondément respectueuse des patients. Il a publié de nombreux ouvrages, on les citera un petit peu plus tard, et certains sont construits à partir de sa réflexion sur la médecine, et d'autres à partir de son métier de psychiatre. Alors on va parler un peu, bien sûr, de littérature, mais de clinique, finalement, et de psychiatrie. Et au sujet de cette dernière, tu attires notre attention dans ce livre « Schizogramme », je te cite, « sur la doxa de la psychiatrie qui mélange le psychisme et le cerveau ». Et c'est vrai qu'on assiste à une réduction de la pathologie psychiatrique, à une sorte de médecine du cerveau. Les pathologies mentales ne relèveraient que de dysfonctionnements neurodéveloppementaux et biologiques. Les dimensions relationnelles, humaines sont disqualifiées, on peut le dire, en tout cas évacuées. Mathieu Bellassène, un psychiatre lui aussi engagé, il décrit très bien cette psychiatrie qu'il nomme la cérébrologie. Bon, dans le même temps, les patients sont souvent montrés du doigt, stigmatisés, quand ils ne sont pas considérés comme dangereux. Alors malgré un contexte qui est quand même assez préoccupant, il y a quand même des équipes qui sont au travail relationnel, pour accueillir l'autre en tant que sujet et l'accueillir dans sa singularité. Et elles proposent une psychiatrie artisanale. Et c'est cette psychiatrie qu'a portée Emmanuel Venet et qu'il a bien présentée dans son manifeste pour une psychiatrie artisanale. Alors on l'avait reçu... moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Les Psychoses et on organise régulièrement des rencontres autour de cette psychiatrie-là, pour faire large. On avait reçu Emmanuel Venet à l'occasion d'une rencontre pour présenter ce manifeste pour une psychiatrie artisanale. Alors, c'est vrai qu'à l'heure des applications pour soigner, des thérapies brèves, de nous parler d'artisanat pour essayer de confectionner un costume psychique sur mesure, selon l'expression de Pierre Deluion, ben ça fait quand même du bien. Et c'est vrai que tu as toujours dénoncé cette psychiatrie un peu protocolisée, standardisée, très objectivante, assez déshumanisée. Quand même, voilà. Donc une psychiatrie quand même qui se veut artisanat d'art et d'altérité, ben, ça fait du bien. Donc je voulais te remercier et te dire aussi que je t'emprunterai peut-être quelques mots. Je vais partir à la retraite fin mai. Je voudrais, comme toi, comme tu le fais dans le livre, témoigner aussi de ma sympathie et mes remerciements, adresser des remerciements aux patients parce que quand même ils nous apportent énormément et ils nous font cheminer sur bien des choses que nous éprouvons et que nous partageons avec eux. Quoi. Donc ce soir, on va parler du dernier livre d'Emmanuel Venet, Schizogramme. Avant-dernier, pardon, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il est prolixe. La retraite, peut-être. Et alors, et moi, j'ai juste une... Alors, oui, voilà ce recueil de nouvelles avec des pépites, mais ça, quelques petits trésors qui nous sont livrés comme ça de temps en temps par les patients. Et Laurent, tout à l'heure, en dira quelques mots. Et donc, je voulais te remercier tout ça. Et alors, une petite anecdote, quand tu étais venu à notre rencontre des psychoses, tu nous avais proposé une belle soirée et en quelque sorte sauvé la mise dans un contexte de démographie médicale très compliqué. On a la chance à l'avoir de voir arriver de jeunes psychiatres. Et il y en a un parmi trois qui venait d'arriver, là, qui venait d'avoir sa thèse, qui avait présenté sa thèse le matin, et qui, après la soirée, il y a une partie un peu auberge espagnole, il avait fait une fausse route en avalant un morceau de cake, donc il a fallu avoir une carrière très brève. Et Emmanuel, il avait fait la manœuvre d'Heimlich, il nous avait sauvé un psychiatre. Donc on ne te reconnaissant à jamais, donc merci pour ton intervention. Voilà. Donc je laisse la parole à Laurent pour dire quelques mots sur le livre.
Bonsoir. Alors... Je vais vous parler, donc bon, je suis ravi d'accueillir là et puis de partager ce petit moment avec Emmanuel et toi, Patrick. Donc je vais vous parler du bouquin d'Emmanuel. Alors c'est un livre qui est composé de 21 petits chapitres qui sont comme des petites nouvelles, des petits textes comme une chronique hein, et qui ont été publiés entre mars 2010 et septembre 2019 dans le bulletin de l'internat de Lyon. Agile, le bulletin qui s'appelait Le Crocodile. Donc, c'est quatre toubibs qui ont travaillé sous des pseudos différents et qui tenaient un peu ce bouquin. Mais il y a peut-être.
Oui. Non. Pardon, ça marche. Oui. Ça marche. Oui. Tu confonds. Tu confonds.
Ah, d'accord.
Bon. Alors, juste, je.
Vas-y. Resitue.
Avec trois collègues, un psychiatre et deux psychologues, j'avais monté dans les années 90 une revue underground, qui était vraiment une revue pour rire, avec des articles très satiriques et très ironiques, qu'on envoyait à des collègues, soit des collègues amis pour rire avec eux, soit avec des collègues qu'on n'aimait pas trop pour se moquer d'eux. Et dans cette petite revue complètement underground qui a sorti une vingtaine de numéros, l'un des quatre, c'était pas moi, avait proposé de faire chaque fois une rubrique où il y aurait des paroles de patients. Et c'est lui qui, en raison d'un patient qu'il avait suivi, qu'il appelait Marcel, dont le père s'appelait Marcel, dont le grand-père s'appelait Marcel, et dont il y avait tout un tas d'autres Marcel dans les cousins et les oncles et tantes. Enfin, donc, une famille confuse, on va dire. Il avait proposé d'appeler toujours le patient schizophrène Marcel. Et puis, donc ça, c'était vraiment une petite revue underground. Et en 2010, ce bulletin de Crocodile, qui est un bulletin très plus officiel, enfin c'est quelque chose de, mais qui n'est pas non plus une grande revue, c'est une revue corporatiste, on pourrait dire, d'internes et d'anciens internes. Et cette revue était qui est très ancienne, hein, était tenue plutôt par les chirurgiens et les médecins, de manière très, c'était une revue de vrais médecins entre guillemets, sérieuse. Et bon, assez paillarde par ailleurs, mais sérieuse. Et puis il se trouve qu'en 2010, un ami à moi, pourtant très médical, mais très versé sur d'autres horizons que la médecine, m'a proposé de tenir une rubrique. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, en souvenir de la revue précédente, des épisodes des nouvelles sur la vie de Marcel. Marcel étant donc la figure emblématique du schizophrène. Ce sont des histoires qui concernent des patients différents, bien évidemment, mais tous s'appellent Marcel, les filles aussi, hein, Marcel. Il y a un Marcelin, ouais, et puis il y en a un autre qui. Il y a Martin, voilà, il y a un qui s'appelle Martin, mais ça, c'est un peu le post-scriptum. Et c'était un peu mon idée, c'était de faire un peu contrepoids à cette culture très médicale, médicalisante du crocodile. Et pour la petite histoire, en 2019, j'en ai été viré comme malpropre, mais sans même qu'on me le dise, les médecins sérieux ont repris le manche et à l'occasion de l'arrêt des fonctions de rédacteur en chef de mon ami.
Du coup, ça, on va continuer comme ça, peut-être. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de republier ces textes après coup, là, ça, finalement ?
C'est un peu lié au fait qu'il y a 3 ans, 4 ans, j'avais publié chez le même éditeur, donc La Fosse aux Ours, un recueil de petites vignettes cliniques extrêmement courtes, puisque je les avais fait tenir en 3 lignes. Et j'avais appelé ça « Observation en 3 lignes », en référence à un livre qui est pour moi un livre culte, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelle « Les nouvelles en 3 lignes » de Félix Fénéon. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà croisé ce titre. Félix Fénéon, c'était un journaliste qui avait un humour noir très, très affûté et qui était employé par Le Matin de Paris pour écrire, enfin, il n'était pas le seul, hein, mais il faisait partie de la petite équipe qui écrivait tous les jours en une brève en 3 lignes, la plus récente possible pour montrer que le journal était à la pointe de l'actualité. Et en général, il s'arrangeait pour écrire une espèce de monument d'humour noir lapidaire absolument extraordinaire. C'est un petit livre qui est republié par Rivage Poche. C'est vraiment pas la ruine et je vous assure que c'est un monument.
Oui, et je crois qu'il y a 367 observations,
alors,
c'est ça ?
Alors oui, Fénéon, il a plus, à 600. En référence à Fénéon, j'avais écrit ces observations en 3 lignes. Et puis, ça m'a donné l'idée de relire ces textes qui existaient déjà, ou pratiquement tous. Je les ai relus d'un autre œil et je me suis dit, mais dans le fond, ça pourrait être une suite. Je les ai un tout petit peu remaniés, enfin homogénéisés. Et c'est devenu ce recueil. Et je suis très agréablement surpris de voir qu'il me vaut des invitations ici et là, parce que j'ai d'une certaine manière l'impression de ne pas l'avoir écrit, si vous voulez. J'ai écrit ça vraiment au fil de l'eau en commençant il y a 13 ans. C'est pas comme un livre pour lequel il y a un plan, un projet, un effort, vraiment se mettre à une table et puis dire je vais essayer d'écrire ça. Là, j'ai l'impression de quelque chose qui s'est fait tout seul et qui s'est fait tout seul avec une perspective, on pourrait dire éthique, très particulière. C'est quand même de faire entendre la position des malades mentaux et la logique de certaines de leurs positions, enfin, et la noblesse aussi de leur parcours, de leur regard sur le monde, de leur manière d'être en relation, même si elle est parfois très saugrenue et très inattendue. Et donc, je me suis dit que ça avait sa raison d'être, ça avait son sens. Et puis voilà. Et ensuite, il est plutôt bien accueilli, ce petit livre.
Oui, tout en tissant, cousant un petit peu à travers ces vrais cas cliniques, enfin pas cas cliniques, ces vraies situations, une dimension politique, je veux dire au niveau de la psychiatrie et philosophique. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est assez remarquable dans ton écriture, c'est d'arriver à tisser les deux. Souvent, il y a une situation qui peut être farfelue, un peu saugrenue, très drôle, etc. Mais en même temps, dans ce petit texte, s'y glisse très souvent cette dimension un peu résistante et philosophique autour du combat un peu d'une psychiatrie artisanale. Voilà, je résumerai ça.
Et c'est tout à fait dans le droit fil de ma culture, de la culture, disons, professionnelle dans laquelle j'ai grandi. J'ai eu la chance de tomber sur des maîtres qui avaient des défauts, bien sûr, hein, comme tous, et avec lesquels j'étais dans une relation ambivalente, mais qui, globalement, faisaient passer l'idée que la psychiatrie, c'est aussi une discipline politique. Évidemment, c'est une discipline de soins, ça a un aspect médical, il y a une dimension médicale qu'il ne faudrait pas dénier, ça serait idiot. Mais il y a une dimension politique qui est extrêmement cruciale, puisque finalement, la psychiatrie s'occupe de ménager dans la société une place pour les fous. Et cette place, bon, elle est toujours problématique, et elle continuera sans doute de l'être. pour la petite histoire récente, enfin sur la grande histoire, ça a commencé notre discipline au début du 19e avec Pinel. Pinel, il avait vraiment l'idée, Pinel qui est d'ici, hein, Pinel et Esquirol. C'est ça, beaucoup de Toulousains, Bonafé aussi. Et l'idée de Pinel, qui était philosophe aussi d'ailleurs, hein, qui était médecin et philosophe, c'était de donner aux malades mentaux une institution qui leur soit réservée. Puisqu'auparavant, il y avait un hôpital général où on mélangeait les gens qui avaient des troubles mentaux, mais aussi les gens délinquants et les gens indigents. Les mendiants, les vagabonds, les orphelins sans feu ni lieu, etc. Ou les gens aussi qui avaient des handicaps physiques. Et puis les filles perdues, comme on disait, qui avaient des troubles liés à la syphilis. Donc c'était une espèce de cour des miracles. Et Pinel a dit qu'il faut vraiment leur donner une place à eux pour les soigner, pour les réinsérer dans la société. Bon, il a été trahi par le fait que la psychose était quand même plus rebelle à son entreprise thérapeutique qu'il ne le pensait. Et ça a évolué très lentement. Et finalement, cette institution qui était très humaniste au départ est devenue asilaire et très rétrograde, très, très contestable. Et puis, il a fallu un deuxième mouvement politique, celui de la Deuxième Guerre mondiale, avec cet autre Toulousain, Bonafé, bon, qui n'était pas tout seul dans l'aventure, mais qui a joué un grand rôle. Qui a milité pour la fin des asiles, la fin de la logique asilaire et la création de ce qu'on a appelé le secteur en 1960, c'est-à-dire une psychiatrie qui essaye de sortir des murs de l'hôpital et de proposer des soins dans des centres médico-psychologiques et puis dans d'autres institutions extramuros, moins stigmatisantes, permettant dans l'idéal d'éviter des hospitalisations. Et c'est vrai que ça marchait, ce modèle. Moi, je suis arrivé en psychiatrie dans les années 80, milieu des années 80, dans les années 80-90, c'était enclenché, le mouvement était enclenché et on avait vraiment l'impression de porter un autre regard sur les malades du simple fait qu'on pouvait les voir en pyjama et en chambre d'isolement dans des épisodes de décompensation où ils pouvaient être complètement en dehors de la réalité et éventuellement très agités, très destructeurs, voire très violents. Et puis, on pouvait les trouver 3 mois après en tenue de ville, au CMP, venant de chez eux pour consulter. Et ça modifie complètement le regard qu'on porte sur la maladie mentale chronique. Et c'est très, très précieux, ça.
J'ai eu la chance de travailler sans chambre d'isolement. Quand même. C'est possible.
C'est possible.
Pendant de longues années.
Ouais, je l'ai vu aussi. Moi, j'ai travaillé longtemps au Vinatier, où les chambres d'isolement, il y avait quasiment une liste d'attente. Et puis après, j'ai changé d'hôpital. Et je suis allé à Saint-Cyr au Mont-d'Or, qui est un petit hôpital du Rhône. Parce que j'étais en bisbille avec la direction qu'avait pris la politique sanitaire du Vinatier. Et à Saint-Cyr au Mont-d'Or, j'ai eu la surprise de voir, dans l'unité où je travaillais, la chambre d'isolement libre, des fois pendant un mois d'affilée. Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse faire ça. Et c'est vrai que ça tient beaucoup sur comment on est en relation avec les malades.
Oui, ça tient beaucoup à plein de choses, à une pensée du soin déjà, je dirais, mais aussi après ce qui existait quand même à l'époque, des années 80, c'était du personnel. Pas que, mais il y avait aussi, là on est en difficulté pour recruter des médecins et pour recruter des infirmiers. Hein. Je crois qu'à l'hôpital dans lequel je travaille, il manque que 20 postes d'infirmiers. Enfin, voilà, ce qui fait qu'il y a une espèce de turnover général dans les services, avec des jeunes infirmiers qui ne restent pas parce que les services sont instables, ce qui fait que c'est très compliqué d'avoir un soin un peu permanent et puis étayant, contenant, etc. Bon, voilà,
ça ne doit pas empêcher d'essayer de penser le soin différemment. Absolument. Parce que si on ne l'envisage pas comme étant possible, alors ça ne va pas se faire. Quoi. Mais, donc oui, c'est probablement plus compliqué, mais il y a quand même, on peut essayer de penser les choses différemment. Quoi.
Alors, peut-être pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas lu ou n'a pas en tête la succession des livres. J'ai donc toujours travaillé en psychiatrie là, jusqu'à ma récente retraite, la plupart du temps à temps plein, et toujours dans la psychiatrie de secteur. Parallèlement, j'ai commencé à écrire, à publier autour de la trentaine, très lentement d'abord, chez Gallimard, puis chez Verdier. Et Verdier, c'est aussi un éditeur important dans la région, hein, qui est basé à La Grasse, près de Carcassonne. Et au départ, j'essayais de faire en sorte de maintenir une étanchéité entre mon activité littéraire et mon activité psychiatrique. J'avais beaucoup de mal à mélanger les deux. Je trouvais que c'était deux positions qui étaient totalement antinomiques même, puisque si on pousse le raisonnement très loin sur le plan théorique, le métier de médecin oblige en théorie à une déontologie qui s'applique y compris en dehors du métier. Par exemple, la déontologie de l'ordre des médecins précise qu'il est interdit de porter atteinte à l'honneur de la profession. Donc, écrire des choses, des brûlots, écrire des... On peut imaginer que ça... ou avoir une vie un peu dissolue, on peut imaginer que l'ordre des médecins prenne des mesures disciplinaires. Et au contraire, en contrepartie, la position de créateur artistique, elle repose implicitement ou pas sur le fait d'être rebelle à toute forme de conformisme ou d'obligation ou de contrainte extérieure. Même si moi je suis pas un révolutionnaire de la langue, hein, dans ma manière de m'exprimer, je suis très loin d'Antonin Artaud ou de gens comme ça. Mais malgré tout, il y a une forme de liberté qui est fondatrice dans le travail d'écriture. Alors d'où cette difficulté, cette nécessité pour moi de maintenir les deux séparés pendant longtemps. Et puis chemin faisant, je me suis aperçu d'abord que mon travail de psychiatre colonisait mon imaginaire littéraire d'une manière extrêmement importante, parce que le travail de psychiatre, qui est un métier magnifique, de psychiste, on pourrait dire, de soignant en psy, c'est fantastique, parce qu'on rentre dans l'intimité de gens qui nous racontent à longueur de journée des romans, des romans familiaux, bien sûr, ou des romans sociaux, des fois, mais des romans que peu de romanciers auraient imaginé. Donc cette matière, ce matériau littéraire qu'il est interdit d'exploiter tel quel, bien évidemment, ce matériau littéraire stimulait grandement ma créativité. Et donc petit à petit, j'ai trouvé des manières de lier un peu les deux, avec par exemple, mon livre sur Ferdière il y a longtemps, et puis plus récemment, et c'est ça que je voulais vous dire, donc à travers trois livres, qui ont des positionnements un peu singuliers. Je pense au Manifeste pour une psychiatrie artisanale, qui est un petit livre de la petite collection jaune de Verdier, qui est donc une collection dédiée à des ouvrages circonstanciels, d'actualité ou de semi-actualité. Et c'était un coup de gueule que j'ai estimé urgent de poser à la fin de l'année 2019, quand je l'ai écrit. C'est-à-dire juste au moment, c'était en décembre 2019 exactement, au moment où on commençait à entendre parler d'une épidémie à Wuhan qui ne nous concernait pas du tout et dont j'étais vraiment persuadé, autant que la plupart d'entre nous, que ça ne nous concernerait jamais. Voilà, c'était un truc chinois, sino-chinois. Et bon, ensuite, ça a eu un petit effet sur la parution du livre, parce que ça l'a différé du fait de la fermeture des confinements, de la fermeture des librairies, etc. Et que les éditeurs ont mis en suspens tout leur programme éditorial. Et donc, ce petit livre, c'est un livre de psychiatre, qui est vraiment mon regard de psychiatre sur l'évolution du métier, sur l'évolution de l'institution et sur ce que je considère comme étant des dérives par rapport aux valeurs du métier. Enfin, la dérive étant celle que tu as indiquée tout à l'heure, cette cérébrologie, cette réduction de la psychiatrie à une science du cerveau et de la synapse et du neurone, et où, dans le fond, on arrose du bon psychotrope le cerveau malade, et puis on laisse repartir la personne.
Vidange, je crois que tu as pris une expression.
Et on
vidange les neurones.
Graissage vidange, c'est ça. C'est un peu le speedy de la synapse, quoi. Et donc ça, c'est un livre clairement positionné comme étant écrit par un psychiatre. Et puis ces deux-là, donc Schizogramme et puis Observation en trois lignes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ces deux livres qui, eux, sont au carrefour. C'est-à-dire que très officiellement, ils sont nourris de mon expérience professionnelle. Ils font en sorte que les patients ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire que j'ai trafiqué, j'ai modifié, j'ai triché avec la réalité. Et donc ce sont des histoires qui sont... toutes vraisemblables, hein, mais toutes tirées d'histoires vraies que j'ai remaniées, que j'ai reconstruites. sauf une, mais je m'en suis rendu compte après coup. Et c'était un tour m'a joué mon inconscient, ce qui fait que maintenant je suis mort de culpabilité à l'idée que peut-être un patient un jour reconnaîtra son histoire dans une des vignettes de schizogramme.
Au départ, l'écriture est aussi une sorte de bouée pour toi, quelque chose qui te permet de travailler, de retraiter un petit peu ce qui se passe dans les séquences psychothérapiques ou de suivi. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a parfois quand on est avec un patient psychotique, hein, la manière dont ça peut nous envahir et la difficulté qu'on peut avoir à se souvenir des effets un peu paradoxaux, des côtés délirants. On sort d'un entretien, on a l'impression qu'on va se rappeler de ce qui s'est dit et il ne reste rien. Donc il y a quelque chose comme ça d'un travail un peu, je dirais, peu de transfert, c'est peut-être pas ce mot qu'il faut utiliser, mais quelque chose qui permet de se raccrocher aussi avec l'écriture sur un effet que peut avoir eu la rencontre avec le patient psychotique.
Alors c'est une question qui est riche, qui est très très large, parce qu'effectivement, c'est, je dirais, le cœur de la question, elle porte sur l'intérêt qu'on accorde à la fonction poétique du langage et à la poésie singulière des patients schizophrènes qui ont un rapport au langage qui est perturbé. Octave Manoni, qui était un psychanalyste lacanien, avait une très belle formule. Il disait les schizophrènes, je c'est pas mot pour mot, mais en gros, les schizophrènes détestent que les mots aient un sens. Alors, il faudrait peut-être dire l'idée véritable, c'est qu'ils détestent que les mots aient une signification. C'est-à-dire qu'il y ait une contrainte linguistique qui s'applique à tous et qui fait que, conventionnellement, tel son renvoie à tel sens. Alors, le sens, c'est un peu différent. C'est ce qu'on met soi-même dans les mots qu'on utilise. Et bien évidemment, le choix des mots va porter des connotations et va porter des intentions relationnelles précise. Chez les schizophrènes, il y a une espèce d'échappement au système des significations, c'est-à-dire au dictionnaire, et un usage des mots un peu libre, un peu d'ailleurs, je ne sais plus quel psychanalyste avait comparé ça à Humpty Dumpty dans Lewis Carroll, dans Alice. Les mots ont le sens que je veux qu'ils aient, hein, c'est que je dis qu'ils ont. Ouais, c'est ça, je crois que c'était ça la phrase exacte. Alors ça, c'est la première chose, l'attention portée à ça. Ensuite, c'est vrai que j'ai été vite frappé, mais comme tous les cliniciens de ce métier, par le fait qu'on entend en permanence des énoncés absolument extraordinaires, très, très originaux, foncièrement poétiques, mais ils s'échappent, on n'arrive pas à les mémoriser parce qu'ils sont trop éloignés de la langue commune. Et ce qui s'est passé, c'est avec ma première participation à cette revue souterraine, comme il fallait produire un 4 pages tous les mois, et comme il y avait cette petite rubrique des Marcel, pardon, eh bien, j'étais très attentif, particulièrement attentif à ce que me disaient les patients, et j'étais un peu à l'affût de la pépite. Alors, je la notais en général assez... de manière assez explicite, en disant « Ah, ça me paraît important ce que vous dites là, permettez que je le prenne en note. » Les patients ne s'en offusquaient pas et n'avaient pas du tout le sentiment. Je dis ça parce que parfois, le fait de prendre des notes pendant l'entretien, ça peut... moi, j'aime pas, je le fais pas en général. Et je trouve que ça peut mal passer auprès des patients. Mais ça, donc, j'ai appris à le faire. Et puis, il y a une histoire que je raconte. Alors, je peux peut-être la développer un peu parce que je trouve qu'elle est délicieuse. Elle mélange le rapport à la langue et le rapport à la sémiologie et aussi aux soins, à la fonction de soins. C'est un patient qui était extrêmement délirant, extrêmement hostile à ses soins. Il était sous contrainte, si je me souviens bien. Il ne cessait de demander à ce qu'on lui rende sa liberté, mais il faisait quand même des trucs assez graves, comme défoncer la tête de son père à coups de marteau, enfin des choses qui méritaient qu'on soit un peu vigilant. Et la relation tournait au bras de fer. Et un jour, je le reçois un matin en entretien. Ce jour-là était un peu particulier pour moi. L'après-midi, je faisais un cours aux étudiants de médecine. J'avais cherché la veille, en préparant mon cours, des exemples de paralogisme, c'est-à-dire d'utilisation des mots de la langue dans un autre sens que leur signification officielle, et j'en trouvais pas, parce que justement, on les perd, on les mémorise pas, ces choses-là. Et ce gars, ce patient, dans l'entretien, à un moment, très offusqué, me dit « Enfin, docteur, je ne suis pas dans un rapport qui adule à la maniaquerie. » Alors là, si vous ne le notez pas tout de suite, hein, c'est perdu. Mais je dis « Ah, permettez que je m'en souvienne. » Et évidemment, c'était pour les étudiants que je voulais m'en souvenir. Je le raconte aux étudiants, j'en fais une illustration, je le raconte à l'équipe, je me le raconte, je le raconte à des copains qui sont des collègues qui sont versés aussi dans ce genre de pépites. Et évidemment, ça se grave dans ma mémoire. La suite de l'histoire est vraiment délicieuse parce que 3 mois après, on était dans une sorte d'impasse thérapeutique complète, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente avec ce patient. Et il protestait contre nos mauvais soins. Et accablé, moi, j'étais complètement désespéré. Quoi. Je ne savais plus quoi inventer. Je me suis dit, dans le fond, mais c'est vrai que vous n'êtes pas dans un rapport qui a dû la maniaquerie. Et là, il est stupéfait. Il me dit, mais comment vous le savez? et j'ai eu tout à fait la partie facile pour lui dire que c'était lui qui me l'avait dit. Et simplement que je m'en souvenais. Et ça, c'était beaucoup moins facile. Il n'avait pas l'habitude qu'on se souvienne de ces énoncés baroques comme ça. Eh bien, je n'en reviens encore pas. Ça a complètement dénoué la crise. Mais complètement dénoué la crise. Il s'est senti entendu. De se sentir entendu, ça l'a rassuré. D'être rassuré, il est devenu beaucoup plus... d'accord pour considérer qu'il avait besoin de soins. Et c'est un type qui est sorti de l'hôpital peu de temps après pour aller dans un foyer thérapeutique. Et je me souviens que le collègue du foyer thérapeutique, au bout de 3 ou 6 mois, m'a dit « Mais il n'a pas de symptômes, ton gars. Il est totalement rétabli. » Alors que je peux vous assurer qu'il faisait des siennes, des graves. Hein. Je ne sais plus si je raconte sa fugue à Pont de Beauvoisin, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. La contamination signifiante, merveilleuse. Il avait des problèmes de voisinage et il part à Pont de Beauvoisin, qui est une commune, en plus, une commune assez marrante sur le plan linguistique, mais je m'en suis rendu compte récemment. Elle est sur une rivière qui s'appelle le Guier, qui sépare la Savoie de l'Isère. Et c'est une frontière qui. Enfin, c'était une frontière il n'y a pas si longtemps que ça, puisque la Savoie est française que depuis 1860. Et la ville de Pont de Beauvoisin est à cheval sur la rivière. En Isère, elle s'appelle le Pont de Beauvoisin. Et en Savoie, elle s'appelle Pont de Beauvoisin. Et il y a une petite frontière linguistique. Mais ce gars-là, donc, qui a des problèmes de voisinage, il est parti à Pont de Beauvoisin en se disant, là, les gens sont sympas, j'aurai moins de problèmes. Et puis, évidemment, ça a été tout aussi compliqué.
La question du virage recule fort. Là.
Et il se couche après dans un virage, dans un hameau qui s'appelle recule fort. Et c'est de là que les gendarmes sont intervenus, l'ont ramené à l'hôpital. Et le matin, à son retour, je l'engueulais un petit peu en disant bah, « C'est dangereux ce que vous faites. » Mais je ne suis pas dans un rapport qui adule à la maniaquerie.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour pouvoir après écrire ces schizogrammes, est-ce qu'il ne faut pas en tout cas, comprendre un petit peu aussi la langue, quoi, à la fois ce que tu dis, poétique, la langue du schizophrène, finalement être un peu, je sais pas comment dire, schizophone, ou oui. Il faut avant d'être sûr, d'écrire des schizogrammes.
Je le dis dans un autre schizogramme, être schizophone, mais en sachant qu'il y a des limites, et je donne l'exemple absolument tragique, parce que le malade en est mort, d'un patient très malade, très délirant, qui est revenu du réveillon du premier de l'an en disant « J'ai mal au ventre, j'ai mangé un truc qui passe pas. » On lui a demandé quoi. Il avait mangé des choses banales comme nous tous, des fruits de mer, etc. Et en fait, il avait mangé aussi 4 piles LR6 et ça pouvait lui faire mal au ventre parce que ça faisait une réaction, ça faisait chauffer, je pense, les piles dans son intestin et ça lui a fait une perforation de l'intestin et il en est mort. Mais donc, on n'a pas entendu. Mais il a répété peut-être 10 fois. Ah non, mais j'ai vraiment mangé un truc qui ne passe pas. Et quand on lui demandait ce qu'il avait mangé, il ne disait que des choses du repas. Mais il ne disait pas du tout. Et on, Enfin, moi, je n'étais pas là, ça s'est passé
difficilement.
Mais je comprends tout à fait les collègues qui n'ont pas entendu le message. Alors, bon, ça, c'est un cas limite, mais le plaidoyer, effectivement, tu as raison, Patrick, c'est pour essayer de se faire. Moi, j'appelle ça une troisième oreille, une oreille qui entend les choses un peu autrement. Par exemple, quand il y a eu, bon, je vous donne le contexte, ça va tout de suite vous éclairer, mais à l'époque où il y a eu la réforme qui imposait qu'on choisisse un médecin traitant, qu'on désigne un médecin traitant, c'était au début des années 2000, il me semble. Un jour, je vois arriver une patiente, une consultante externe, du bout du couloir. Elle arrive comme ça, j'ai le papier pour le traiteur. Et je vois des collègues, et, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est le médecin traitant, ça peut être que ça, quoi. Bon, c'est petit à petit. Je me souviens d'un autre qui me disait, je ne sais pas si je leur raconte, qu'il avait fait des études diplomatiques. Et c'est des études qui donnent lieu à un diplôme. Voilà.
J'ai cité Bonafé qui parlait de l'art de l'écoute et de l'écho, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend et quel écho on peut donner après à ce qu'il nous livre comme ça. Quoi.
Et alors, il y avait Toscaïès qui disait aussi une chose très, très étonnante. Hein. Il disait que c'est plutôt mieux quand le thérapeute et le malade ne parlent pas la même langue. Alors, bon,
il faut être étranger, pas de psychiatre.
C'est son accent, d'ailleurs.
Oui, il ne voulait pas perdre son accent catalan pour rester un peu incompréhensible. Bon, c'était un peu de la déconniatrie et c'est assumé comme tel. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui est au cœur de ce livre. Dans la recherche aussi de l'accordage linguistique. Parce qu'il faut aussi se faire comprendre. Et c'est aussi une des difficultés du métier. Puis, bon, voilà, tout simplement, je vous dis, je trouve que c'est une matière littéraire, c'est une matière philosophique, c'est une matière politique, mais c'est une matière littéraire. Et il y a de la beauté dans ces histoires. Il y a vraiment du romanesque et de l'inattendu, de la beauté. J'aime bien ces petites nouvelles.
Oui, oui, c'est savoureux, je dirais. On rit, hein, c'est très, très drôle, c'est tendre. Il y a quelque chose d'une c'est très touchant parce que tu arrives à en parler des patients qui ont des histoires terribles quand même. Hein. On voit bien quand même le côté, la sympathie que tu peux avoir ou l'attention que tu peux avoir sur cette humanité un peu là comme ça sensible. Ça passe très bien dans ton écriture. C'est d'ailleurs très difficile, je trouve, à arriver à parler un petit peu à faire revenir ça pour pas que ça soit que trop léger ou trop humoristique, tu vois, un peu drôle comme ça. Il y a quelque chose de l'humanité que tu ressens et que tu fais passer dans ton humour aussi, hein, dans ton humour, une sorte d'humour un petit peu sensible, quoi. Voilà.
Alors c'est vrai que c'est aussi une manière de plaider pour ce que j'appelle ici ou là, je sais plus, une psychiatrie humble. Une psychiatrie du quotidien, c'est cette psychiatrie qui était dans le fond celle que voulaient les inventeurs du secteur, non stigmatisante, lente, libératrice. Henriet avait des formules très très belles sur le fait que la mission des soignants en psychiatrie, c'est de rendre le maximum de liberté interne aux gens qu'on soigne. Et alors là, on revient un peu sur le terrain des institutions. Ce qu'on voit, et moi je l'ai vu particulièrement à la loupe au Vinatier, c'est que les services de secteur, ces services justement de la psychiatrie humble, ont été progressivement privés de leurs moyens au profit de services, alors de deux types de services que j'aime pas, des services vitrines. Qui sont par exemple en train de prendre une place absolument inquiétante dans le paysage, qui sont les centres experts. Alors ça, on en parlera si vous voulez. Je lutte de toutes mes forces contre cette déconnexion du diagnostic et du traitement. Je trouve que c'était une hérésie mais absolument énorme qui va nous mener dans le mur et qui va surtout pénaliser les malades gravement. Et puis les services sécuritaires. Et les services sécuritaires au Vinatier, alors c'est très, très objectivable. En 2000, création d'une unité de soins intensifs psychiatriques. Donc, c'est des chambres d'isolement et de la psychiatrie un peu de mise au pas. Quelques années après création d'une UMD, unité pour malades difficiles, donc ce qui sous-entend qu'on travaillait dans une unité pour malades faciles, et ça, on ne s'en rendait pas tout à fait bien compte. Unité pour malades difficiles, c'est que des gens qui sont sous mesure de contraintes très strictes, soit décision d'un représentant de l'État, et qui, qui sont réputés dangereux.
Comme médico-légaux.
Oui, alors au départ, il y avait 4 unités en France. Et les cas médico-légaux, les malades meurtriers, etc., y étaient accueillis, mais pas forcément à vie. Ils y étaient accueillis très longtemps s'ils avaient des menaces de récidive, mais ils pouvaient être accueillis sur un temps, toujours en année, hein, ça compte, pas en semestre, on compte. Mais alors maintenant, je crois qu'il y a une quinzaine d'UMD en France. Et
plus les USIP.
Alors USIP, c'est ce que je disais, oui. USIP, UMD, et puis troisième couche, une UHSA, unité d'hospitalisation spécialement aménagée, ce qui ne veut rien dire, et qui est dévolue aux patients, enfin aux personnes qui ont des troubles psychiatriques, mais qui sont détenues ou prévenues. Alors ça a un avantage pour eux, c'est que le compteur carcéral tourne pendant leurs soins, ce qui n'était pas le cas avant quand ils étaient hospitalisés, donc c'est plutôt une avancée. Mais le fait de l'avoir mis sur le site d'un hôpital psychiatrique, avec donc une enceinte pénitentiaire, avec des gardiens en armes, etc., ça donne une coloration aux soins, je vous assure, qui est tout à fait différente. Rien que le fait que... Moi, j'ai travaillé dans un service de médecine au Vinatier, médecine et odontologie, il y avait nos cabinets dentaires. Quand vous voyez arriver des patients en pyjama escortés de gens en armes, ben, c'est plus la même ambiance hospitalière. Et alors, progressivement, ces services sécuritaires et ces services vitrines ont appauvri les services de secteur dans des proportions absolument délirantes. Et y a, alors, moins il y a de psychiatrie humble, moins il y a de prévenance à l'égard des patients, moins il y a de disponibilité. Vous savez, à un moment, je dis, il y en a un qui arrive à ses rendez-vous avec une heure de retard ou une semaine d'avance, mais qui estime qu'il est dans son bon droit pour être reçu. Et c'est vrai. Il est malade. Et moi, je disais souvent aux jeunes collègues ou aux jeunes infirmiers, mais s'il est venu le jour où vous l'avez rendez-vous, même à 16 heures alors qu'il avait rendez-vous à 9, mais c'est déjà considérable. Enfin, estimez-vous heureux. Alors, s'il vient à 9 heures, quand il a rendez-vous à 9 heures, là, on a fait un chemin considérable, quoi. C'est énorme. Et donc, pour pouvoir recevoir à 16 heures un malade qui a rendez-vous à 9 heures, il faut avoir un peu du jeu dans son emploi du temps. Il faut être nombreux. Il faut avoir des moyens.
Une disponibilité psychique. Hein.
Oui, et puis concrète aussi. Tu vois, enfin, les deux. Et c'est vrai que les deux se perdent. Parce que quand la disponibilité concrète se perd, on travaille en sur-régime, on est sans arrêt en train de finir à la course et en retard quelque chose pour commencer en retard une autre. Et du coup, quand le malade se pointe et dit j'ai le papier pour le traiteur et puis je veux un rendez-vous, être reçu tout de suite, on lui dit non, vous reviendrez la semaine prochaine ou un truc comme ça. Et puis ça peut partir en mauvaise mayonnaise. Et puis ça va être la chambre d'isolement. Et puis ça, voilà, et puis ça peut être l'USIP. Enfin, on voit beaucoup de choses comme ça. Je vais vous raconter une histoire qui m'avait beaucoup marqué en tant que formateur. J'ai fait une formation il y a très longtemps, 20 ans. Dans un service qui était à l'abandon. C'est un service qui n'était pas à Lyon, qui était dans une petite ville où il n'y avait pratiquement plus de psychiatres. Et le psychiatre du service, il s'occupait de 2 sites hospitaliers psychiatriques, un hôpital général, les urgences de l'hôpital général et 3 CMP dans un rayon de 50 km. Inutile de vous dire que le rencontrer était une prouesse. Un jour, il y a un patient hospitalisé qui dit à l'infirmière « Je veux voir le médecin, j'ai quelque chose à lui dire. » Elle lui dit « Je le note, je lui transmettrai. » Bon, le médecin, il passe en coup de vent, il dit non, j'ai pas le temps. Il passait 2 fois par semaine, mettons le mardi et le vendredi. Le premier mardi, il dit non, j'ai pas le temps. Le vendredi, j'ai pas le temps. Le mardi suivant, j'ai pas le temps. Et le patient retourne voir l'infirmière, il avait redemandé entre temps. Et il dit je veux voir le médecin et je le verrai cette fois. Et boum, il lui démolit le portrait. Mmh. Et de fait, pour la mise en chambre d'isolement, mais il a vu le médecin. Bon, des histoires comme ça, c'est pathétique, si vous voulez. C'est pathétique parce que ça se termine en chambre d'isolement. Alors que si on a un minimum de disponibilité pour entendre ceux qui se demandent. Peut-être que c'était complètement loufoque, peut-être que la réponse aurait été frustrante et que ça aurait aussi déclenché la... Mais rien ne permet de l'affirmer. Hein. Donc voilà, c'est cette évolution de l'institution qui me semble très, très, très préoccupante et à dénoncer. Et sur les centres experts, je suis en train de concocter, je vous livre là un élément, un projet qui est tout juste embryonnaire, mais je suis en train de me demander s'il ne faut pas que j'écrive un deuxième manifeste, une suite, parce que la Fondation Fondamentale, qui promeut beaucoup ce modèle cérébrologique, cette disjonction du diagnostic et du traitement. Donc, on fait le diagnostic sur la base d'une rencontre assez courte, et de rencontres cliniques et tests psychométriques. Et puis ensuite, il y a une préconisation. Vous relevez d'une TCC, comme ci, comme ça. Vous relevez d'un programme de réhabilitation psychosociale. C'est toujours un peu les mêmes choses, hein, la méditation, le machin. Toutes ces approches très, très en vogue. Et très contestable. D'ailleurs, il y a des travaux qui permettent de dire que la TCC n'est vraiment pas la panacée de tous les troubles mentaux. Ce modèle où il y a donc une injonction ensuite à suivre un protocole de soins fait qu'il n'y a pas l'aller-retour entre l'hypothèse diagnostique initiale et ce qu'on observe dans le soin. Or, c'est ça qui est très précieux dans un soin bien conduit, dans un soin psychique bien conduit. D'abord, on fait des hypothèses psychiatriques. Moi, je ne me cache pas d'en faire. Je me dis, bon, là, on est plutôt dans le registre de la paranoïa, là, plutôt de la schizophrénie, là, plutôt du trouble bipolaire. Bon, ça aide un petit peu à situer le truc. Mais d'abord, parfois, on s'aperçoit qu'on s'est complètement planté. Mais vraiment complètement. Hein. Moi, j'ai découvert que tel obsessionnel que je suivais depuis des mois était un immense paranoïaque qui par ailleurs, délirait, mais délirait dans son blog. Et un jour, c'est quelqu'un qui m'a alerté en me disant « Mais vous avez lu le blog de votre patient ?» Non. Ben, je vous envoie des liens et j'ai découvert son délire. Et quand je lui ai demandé « Mais pourquoi ne m'en parlez pas à moi ?» Il m'a dit « Mais parce que c'est intime. » Bon, faut, hein, ça fait partie des leçons de vie qu'on reçoit de nos patients. Donc, parfois, on se plante complètement, et moi le premier. Mais c'est justement quand on découvre qu'on se plante, qu'on révise l'hypothèse diagnostique et qu'on révise le cap thérapeutique, le moyen qu'on se donne, etc. Enfin, qu'on voit les choses autrement. Donc, ça m'inquiète déjà en soi. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète encore plus dans ce qui est en train de se mettre en place, c'est que notre époque et notre pouvoir politique est en train de développer une religion du monde numérique et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je ne vais pas vous dire que ça ne nous aide pas dans la vie. Hein. Moi, ça m'a aidé à arriver en voiture. Ça nous aide au quotidien pour beaucoup de choses. Mais pour le diagnostic psychiatrique, alors là, je pense que ça va nous poser beaucoup plus de problèmes que ça va en régler. Parce que actuellement, donc Fondamental propose un algorithme de diagnostic pour le trouble bipolaire et pour la schizophrénie qui ne repose plus sur la rencontre clinique, plus du tout, qui repose, ou très faiblement, vous allez voir, la seule rencontre clinique, c'est la passation de tests. Et donc, il y a des critères psychométriques qu'on rentre dans l'algorithme. Il y a des critères biologiques et l'algorithme, on ne le connaît pas et on ne le connaîtra jamais parce qu'il est couvert par le secret industriel ou par le secret des affaires. Et ça a la même transparence que Parcoursup, en gros. Et donc, la machine dira telle personne est bipolaire, telle personne est schizophrène. Observons une chose. Je vais creuser ça, je ne suis pas affirmatif là, mais je vous fais part d'une préoccupation. Quand j'ai commencé mes études, le trouble bipolaire qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive concernait 1% de la population. Aujourd'hui, les études épidémiologiques disent que c'est entre 5 et 6%. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ça, je vous le dis clairement, je ne crois pas que ce soit vrai. J'ai vu trop de patients à qui j'ai enlevé le traitement thymorégulateur parce qu'ils n'en avaient nul besoin et qu'ils n'en avaient que des effets négatifs, mais qui avaient été diagnostiqués bipolaires sur des arguments cliniques fallacieux. Enfin, sur des arguments d'ailleurs pas forcément cliniques, mais anamnestiques. Je pense à une patiente étiquetée bipolaire parce que sa grand-mère s'est suicidée. et qui n'a jamais fait aucun trouble qui évoque cliniquement le trouble bipolaire. Donc, je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait 5 à 6% de bipolaire dans la population générale. Je suis en revanche convaincu, mais ça c'est du bon sens, qu'il y a des acteurs économiques qui ont intérêt que 5 ou 6% de la population se soigne au lieu d'un. J'ai bien peur que l'algorithme trouve beaucoup de personnes schizophrènes, d'autant que la schizophrénie, ça commence à un moment de la vie qui est un moment charnière et très très crucial, qui est la fin de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, un moment où en général on se cherche un peu, on peut avoir des conduites un peu erratiques sur le plan des consommations d'alcool ou de psychotropes, on peut être un peu rebelle sur le plan politique, on peut être un peu rebelle sur le plan créatif et vouloir faire des performances un peu scandaleuses, des trucs comme ça. J'ai très peur que l'algorithme vienne mater tout ça
s'exploser après
et qu'on neuroleptise, alors que pour le coup, on retrouve Ferdière et Artaud et cette relation folle entre un poète et la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on sac à la base tout élan de rébellion créateur, créatrice, disait Artaud. Alors, faut pas faire de faux procès à Ferdière. Il avait ses défauts, mais c'était pas un sadique, je pense pas. Mais on risque de voir des pratiques dans lesquelles des psychiatres, pas plus cruels d'ailleurs, et pas sadiques pour dessous, suivent le verdict de la machine, parce que je pense aussi que c'est très difficile d'échapper au verdict de la machine. C'est une image, si vous voulez, une comparaison
dans le fantasme de la science scientifique.
L'ordinateur ne peut pas se tromper. Et j'ai une image, si vous voulez, en tête, qui me vient d'un essai déjà un petit peu ancien de Susan Sontag. Et je ne sais plus, ce n'était pas la maladie comme métaphore, mais c'était un essai ultérieur, et je ne sais plus son titre. Elle disait, observez que nul ne peut résister, sauf les aveugles peut-être, mais nulle personne non aveugle ne peut résister à une image animée. Aller dans un bistrot pour parler d'une affaire très très précise avec quelqu'un, il y a une télé qui passe des trucs qui ne vous intéressent nullement, 10 fois, 100 fois, vous allez vous retourner vers la télé, ça capte. Je pense qu'il y a la même fascination autour de l'intelligence artificielle et qu'il y a le même risque. La machine ne peut pas se tromper. Et si la personne a été déclarée schizophrène, elle est schizophrène. J'ai un souvenir terrible. Un jour de juillet, un vendredi, je reçois dans le service où je travaillais à l'époque, un service de secteur avec des grands malades mentaux extrêmement impressionnants, des Marcel. Hein, ils sont sympathiques, mais ils peuvent quand même faire peur quand on n'est pas soi-même psychotique. Je reçois un type, étudiant brillant, en 22 ans, 5e année de fac, bon résultat jusqu'à l'année précédente, qui était complètement... qui avait été... enfin, comment dire, dont l'équilibre psychique s'était effondré à l'occasion d'une rupture sentimentale avec une jeune fille qu'il connaissait depuis le lycée, avec qui il était depuis 5 ans. Et la rupture avait été particulièrement difficile à digérer parce que je crois qu'elle était partie avec son meilleur ami ou un truc comme ça. Il a fait une tentative de suicide, un an avant d'arriver dans mon service. Hein, il a fait une tentative de suicide qu'il a amené dans une clinique. Puis, sorti de la clinique, il en a fait une deuxième qu'il a amené dans une sorte de centre expert des dépressions résistantes, où on a dit, c'est pas étonnant, il est bipolaire ce garçon, il a fait 2 TS. Donc, neuroleptique et thymorégulateur, double dose. Ce qui, un, lui a fait prendre pas mal de poids, 2, l'a rendu impuissant, 3, a complètement modifié ses perceptions de lui, sa vie mentale, enfin, ça a des effets extrêmement importants. Et je dirais que le drame de ce garçon, c'était d'être docile. Je suis très embarrassé devant lui parce que moi je vois un jeune homme perdu, certes, perdu dans un chagrin d'amour. Il avait refait une TS, oui c'est ça, il est arrivé dans le service parce qu'il avait refait une TS après avoir sollicité son ex d'une manière extraordinairement maladroite, mais maladroite parce qu'il était encore plus perdu par les médicaments qu'il recevait. Tr- très embêté. J'étais très embêté parce que c'était le jour de mes vacances. C'était un vendredi après-midi. Je partais le soir pour 3 semaines. Et je sentais intuitivement qu'il n'avait pas sa place dans le service et qu'on allait l'esquinter. Je téléphone à sa mère. Je la questionne, mais vraiment très, très en profondeur sur les antécédents, le parcours scolaire, la vie relationnelle, etc. Enfin, toutes les choses importantes pour ce jeune homme. Et vraiment, il n'y avait rien qui dépassait, il n'y avait rien qui indiquait un trouble bipolaire. Je questionne sur les antécédents familiaux. Rien non plus, à l'exception que la mère me dit, je dois bien vous confesser que moi aussi, j'ai eu un chagrin d'amour quand j'étais jeune et j'ai avalé des médicaments, mais ça n'était pas grave et puis je n'ai pas été soigné. Bon, voilà. C'était l'antécédent familial. Bon, il était sous contrainte. Je me dis, sans l'avoir observé et partant demain, je ne veux pas non plus lui faire courir le risque qu'il se suicide, que ça va sortir trop vite et puis qu'il se suicide. Donc, je le garde en observation dans le service, en faisant un grand mot à ma collègue qui prenait le relais pendant mes vacances, en lui disant, lui, j'ai l'impression qu'il faut le faire sortir vite et lui proposer une autre manière de se soigner et modifier le traitement. Quand je suis revenu mes vacances, il était toujours là. Et la collègue m'a dit, oui, mais il est très discordant. En fait, il est schizophrène, ce garçon. Il est très, très discordant. Ce n'était pas une discordance, j'en suis formellement sûr. C'était une réaction iatrogène. Et il est sorti de l'hôpital quelques temps après avec une bonne étiquette. Là, il a passé un mois et demi dans un service de grand fou. Et on l'a retrouvé au fond du Rhône. Et c'est une histoire qui ne passe pas. Et je crains que ce genre d'histoire ne devienne monnaie courante. D'autant que il y a eu un grand mouvement, on en entend un peu moins parler maintenant en France, mais il y a eu un grand mouvement pour dire, ça c'est autre chose qui est important, pour dire qu'il faut soigner la schizophrénie avant qu'elle n'apparaisse, avant les symptômes, sur la base de questionnaires psychométriques qui sont dits des questionnaires de vulnérabilité. Et alors, là aussi, c'est une entourloupe sur laquelle je crois qu'il est vraiment important d'être attentif et d'avoir un esprit critique très, très en éveil. C'est que la psychiatrie médicale, la cérébrologie actuelle, tend à se calquer, pour se donner une crédibilité, je pense, sur la cancérologie. Il y a une fascination sur le modèle
fondamental, je ne sais comment elle s'appelle, Marianne
Le Boyer.
Marion Le Boyer, voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle répète à l'envie qu'elle veut décliner quelque chose qui serait calqué sur la prise en charge des cancers.
Bon, c'est complètement utopique parce qu'en cancérologie, il y a des marqueurs tout à fait objectifs. On peut objectiver une maladie, la taille d'une tumeur, la présence de métastases, la présence de ganglions. Enfin, ce sont les stadifications en cancérologie, elles sont assez précises, et encore qu'elles ne le sont pas tant que ça, parce que ce n'est pas aussi homogène qu'on veut bien le croire, hein, les groupes de malades en cancérologie. Mais en psychiatrie, ce n'est pas vrai. Et ce mythe de « il faut soigner le plus tôt possible, avant même l'apparition des symptômes, pour éviter qu'ils apparaissent », mais moi je pense qu'on va de ce fait-là décérébrer des artistes en puissance. Des adolescents un petit peu revêches, un petit peu rebelles qui relèvent le nez. J'ai vraiment des grandes craintes sur l'évolution de notre discipline.
Pour les marqueurs, ils cherchent encore quand même pour l'instant.
Voilà, mais ils trouvent sans arrêt. Ouais, hein, ouais. Tu sais, le phosphore dans les cheveux, tel truc dans les globules rouges, tel machin. Ça dure 15 jours en général. Et puis on passe à autre chose. Ouais.
Oui, peut-être qu'on peut faire passer le micro dans la salle et faire un. Ouais.
Mais peut-être que ce qu'on pourrait faire. Est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont lu, le livre ? Non, alors, oui. Non. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu, donc. Si je comprends bien. Peut-être qu'on peut en lire un pour donner un peu une. Tu serais d'accord, Laurent, ou vous... Moi ? Moi, je les connais, oui. Marcel et le courrier. J'aime recevoir des lettres de mes patients ou de leur famille, les archiver, les relire longtemps après. Les supports de ses écrits brillent par leur diversité. Feuilles arrachées à un carnet, lambeaux de nappes ou d'enveloppes Kraft, cartes postales kitsch ou encore papier réglé accueillant la prose au cordeau d'un paranoïaque. Morceaux de vie, bouteilles lancées à la mer, confidences trop brûlantes pour être dites de vive voix, cette littérature promise à l'oubli fait sourire ou bouleverse, ou les deux. Après m'avoir longuement exposé son délire d'intrusion et les problèmes de serrurerie qui en découlent, une femme termine ainsi sa lettre. C'est peut-être une coïncidence, mais dès que j'essaye de demander que telle entreprise remplace correctement la porte, je me retrouve enfermé à l'HP. Une autre, venant d'apprendre que je vais quitter le service où je l'ai suivi pendant plusieurs années, tient à me faire part de sa gratitude. Pardon, voilà. Je vous remercie de vous être occupé de moi pendant tout ce temps sans être décédé. C'est ce qu'il fallait faire, croyez-en la vie. Un charmant lascar à qui j'ai eu la faiblesse d'accorder une permission m'envoie la carte postale suivante. Un petit bonjour de permission qui sera plus longue que prévu. Merci d'avance. La mère d'un autre patient, soucieuse d'exactitude comme personne, conclut ainsi un long procès-verbal de mauvaise observance thérapeutique. Voici les faits tels qu'ils se sont passés et je tenais à vous en informer. Bien entendu, vous étiez en vacances, ce qui est normal. Moi qui les trouve toujours trop courtes. Une autre, du fond de sa confusion délirante, essaye de me préciser ce qu'elle ressent. Mon histoire est assez étrange. Elle est très différente couchée que debout. J'adore ces formules, c'est magnifique. J'ai dans la tête un bruit de chariot opératoire lancé à vive allure dans des couloirs sans fin où l'on me brutalise pour aboutir à une salle austère où il y a des femmes qui accouchent. Je bois peu d'eau et vois les WC sales en permanence. J'ai des hallucinations qui me persécutent en permanence. Je vois des objets, des personnes d'une façon éphémère. J'ai un mal-être quasi permanent, mais être, c'est écrit comme l'arbre. Plus original, un Olibrius écrit sur les ordonnances que je lui remets. Parfois, ce sont des lettres d'amour à la femme pour qui bat son cœur, laquelle s'inquiète assez de ses déclarations pour me les réacheminer. Il ne me reste plus que 3 mois à vivre sans toi, ma déesse sans descendance, reine Margot, phénix Morgane au Japon, belle île en mer. Je vais tirer un coup de semonce et non de semence. Viendras-tu à mon enterrement ? Je t'aime définitivement. Un autre jour, c'est un pharmacien espiègle ou obsessionnel qui me faxe une ordonnance du même patient où, sous ma prescription de neuroleptique, ce dernier a rajouté, sans même chercher à imiter mon écriture, Rhypnol 5 boîtes. Le Rohypnol se vendait alors un bon prix au marché noir des psychotropes légaux. Un soir d'automne, à l'heure où je quitte le service, Marcel m'apostrophe sur le pas de la porte. Puisque je sors de l'hôpital, aurais-je l'obligeance de lui poster un courrier urgent ? Écartelé entre le désir de lui être aimable et la peur de me rendre complice d'un envoi transgressif, je demande à voir l'enveloppe. En guise de souscription, Marcel a simplement écrit « Sélection du Reader's Digest, Amérique ». Au dos, il a soigneusement noté son nom, celle du service et l'adresse de l'hôpital. Incapable de camoufler mon amusement, je lui fais part de mon accord de principe pour mettre la lettre à la boîte et aussi de ma conviction qu'avec une adresse aussi succincte, la lettre n'arrivera jamais à son destinataire. Alors, d'une voix très douce, chargée de toute l'indulgence que peut éprouver un grand malade pour la naïveté de son psychiatre, Marcel m'assure qu'il écrit souvent à cette revue et qu'il reçoit chaque fois une réponse. Un peu plus tard, je relirai ces 5 mots, « Sélection de Reader's Digest, Amérique », en glissant l'enveloppe dans l'ouverture « Autres départements et étrangers ». Et je me demanderai, comme ça m'arrive de plus en plus souvent, qui est le plus fou ? Marcel, qui rédige des courriers aux adresses aussi vagues, ou moi, qui crois qu'elles arrivent. Mais voilà, une vingtaine. Oui. Vous avez peut-être des questions,
questions
ou des remarques.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors du coup, j'avais une question. Suite à cette lecture, on voit bien que il y a un peu, qu'on peut développer une troisième oreille ou un troisième œil, un art de lire entre les lignes, puisque vous disiez aussi que la signification du mot en tant que tel se décale. Et ça me faisait aussi penser à Christophe Tarkos, qui est un écrivain, et qui disait qu'au final, le mot « mot » dans le dictionnaire ne veut rien dire. Et donc, je voulais poser la question de ce sujet dont vous parliez, qui répète cette phrase « mais au final, je ne m'en souviens pas, elle m'a échappé ».
Qu'il n'est pas dans un rapport voilà, qui est dû à la maniaque.
Est-ce que vous avez essayé de poser, de trouver un sens, le sens que ça pouvait avoir pour lui, puisque ça a l'air, dans ce que vous disiez, d'avoir dénoué quelque chose, en tout cas.
Ben, je cherche encore, hein, à vrai dire. Ouais, je cherche encore. Mais ce n'est pas forcément bien grave. On peut s'en tenir à juger l'arbre à ses fruits, comme on dit. Là, ça a produit vraiment un effet thérapeutique majeur. Ça suffit. Et j'ai aussi le souvenir, je ne crois pas que j'en parle dans ce livre, mais j'ai le souvenir d'un patient que j'ai suivi très longtemps, qui était un patient extrêmement touchant. Je l'appelais mon Antonin Artaud à moi, parce que c'était une espèce de poète du quotidien, qui avait un maniérisme verbal, mais impressionnant et très beau. Et dans le cours de nos entretiens, il y a deux choses que j'en retiens. Je l'ai suivi quelques années. Après un entretien, un des premiers, il revient et me dit « mais j'ai pas eu ma strophe ». Alors, votre strophe, eh oui, il me faut ma strophe. Alors là, je comprends qu'il veut une phrase qui permette d'attendre, à laquelle il puisse se raccrocher jusqu'à l'entretien suivant. Donc, je lui dis une phrase un peu bébête. Et après, donc, c'était ça. Là, pour le coup, c'était ça. Et je lui donnais sa strophe à chaque entretien. Mais dans les entretiens, il me parlait de son fraxième. J'ai jamais su ce que c'était que le fraxième. Ça, c'est un néologisme, hein, c'est pas un paralogisme. Mais j'ai jamais su de quoi il me parlait au juste. Simplement, je comprenais que entre son fraxième et son humeur, il y avait une relation de corrélation extrêmement forte. Et quand le fraxième allait pas bien, le moral était bas et vice versa. Donc Je lui posais des questions, moi. Et votre fraxième, je ne savais pas ce que c'était, mais il était très content qu'on en parle. Et je dirais que c'est tout sauf de la moquerie. Hein. Vraiment, c'est une manière d'essayer de s'accorder avec le patient pour parler le plus possible la même langue.
Bonjour et merci. Vous avez beaucoup parlé de figures d'artistes dits fous. Et du coup, je voulais savoir si vous pouvez nous parler un petit peu de la place de l'art dans la thérapie, autant en pratique qu'aussi en consommation, en contemplation. Est-ce que c'est des choses que vous avez essayé de mettre en place ?
Alors non, j'en ai toujours eu peur. J'ai vraiment peur de pas savoir faire, parce qu'effectivement, par exemple, animer un atelier d'écriture, je m'en sens incapable. Je le dis très, très tranquillement. Je sais maintenant que je sais écrire. Disons que, vous savez, j'aime beaucoup. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Louis-René Desforêts, à qui une journaliste lui demandait « Êtes-vous un écrivain ?» Et il a répondu « Je travaille tous les jours à cette hypothèse. » Je trouve que c'est une phrase magnifique. Et bon... comme je continue de travailler tous les jours à cette hypothèse, j'ai l'impression qu'elle est valide. Mais alors, en revanche, je crois que je serais très en difficulté pour faire de l'art un médium thérapeutique. Je ne sais pas faire. Alors, simplement, je crois qu'il est très important, et ça, c'est quelque chose que, dans ma réflexion, qui est fondamental, de respecter au maximum, de faire le plus possible la différence entre ce qui relève du délire ou du symptôme qui nécessite un soin et ce qui relève de la liberté créatrice qui nécessite le plus grand respect. Et c'est Antonin Artaud est une incarnation de ce dilemme, puisque vous savez, donc dans sa vie, il a en gros, on peut dire, deux phases dans sa vie d'adulte. D'abord, il a été un poète qui a eu du mal à imposer sa voix poétique, hein, puisque Rivière avait refusé ses premiers recueils, mais bon, qui a quand même été publié. C'est
un petit bijou d'ailleurs, ce livre. Ouais. La correspondance, pour ceux qui ne connaissent pas, la correspondance d'Antonin Artaud avec Jacques Rivière, si vous voulez en savoir un peu sur la manière dont on peut ressentir une certaine transformation des mots, une effroyable maladie de l'esprit. C'est un bijou de description de ce que peut ressentir Artaud et aussi du tact de Jacques Rivière. Moi, j'ai toujours trouvé ça génial. Enfin, bon, peut-être qu'on dise. C'est-à-dire, quand même, il y a quand même une sorte de petit transfert qui se passe dans cette correspondance. Et il arrive à renvoyer des choses à Artaud qui lui permet de travailler et après d'éditer sa correspondance. Voilà, je fais juste une parenthèse, mais parce que j'ai tellement ce récit, moi, m'a passionné.
Il est plein de gentillesse, mais à un moment, il dit « Je suis comme ces médecins qui ne croient pas aux symptômes que disent les malades. » Enfin bon, il bat sa coulpe. Mais donc, dans cette première phase, il est surtout acteur, Artaud, et acteur de théâtre et de cinéma. Et c'est un acteur qui est très reconnu, qui est assez célèbre pour son temps. Et puis, en 36-37, là, il y a le voyage au Mexique, dont il revient complètement délirant en 37. Et là, il rentre dans une phase où il va être hospitalisé pratiquement le restant de ses jours. Mais jusqu'en 46, pendant 9 ans, donc, sous contrainte, en mesure de ce qu'on appelait le placement d'office à l'époque. Ferdière, qui le connaissait depuis le groupe surréaliste, parce qu'il fréquentait Desnos, c'est René Desnos et Duki, qui avait table ouverte une fois par semaine et qui recevait beaucoup de gens de la mouvance surréaliste. Il avait rencontré déjà Artaud et il avait été alerté aussi par des proches d'Artaud qui disaient « Mais il délire, il dit n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et tant qu'il était dans le compagnonnage artistique, il disait « Faites rien tant que son délire est joli. » Et puis quand il a eu à le soigner, il y a fait des électrochocs. Il y a prescrit des électrochocs, même si il l'a démenti. Enfin bon, il a été un peu flou sur là-dessus, mais ça a été une grosse pomme de discorde entre eux. Et là, Artaud l'a accusé d'une manière assez fondée, même si c'était pas le projet vraiment de Ferdinand, mais il l'a accusé de vouloir redresser sa poésie. Alors, je dirais que c'est là qu'il y a quelque chose qui est extrêmement, une frontière qui est infiniment délicate à sentir. Jusqu'où on soigne le symptôme qui fait souffrir ou la personne ou son entourage, parce que le délire, ça peut être aussi extrêmement pénible à vivre pour l'entourage. Et puis, à partir de quand on respecte quelque chose qui est excentrique, qui est extravagant au sens strict, mais qui témoigne plutôt d'une force, d'un mouvement créateur artistique à respecter. Voilà ce que j'ai en général en tête quand je soigne les gens. Bon, ceci dit, je dirais que moi j'ai eu la chance, et je pense que c'est assez commun dans le métier, qu'on rencontre pas tellement de grands artistes. Ils trouvent des chemins pour pas trop pour pas croiser ceux de la psychiatrie, je crois. J'en ai rencontré beaucoup, des grands timbrés, on va dire, des grands extravagants sur la scène culturelle, mais qu'on voit pas sur la scène psychiatrique. Ouf.
Oui, ça pose des questions très larges aussi sur qu'est-ce que c'est que l'art, sur est-ce que les productions de certains patients sont artistiques ou pas. Sacrée question.
Tu sais, j'avais fait un petit livre là-dessus. Ah oui, j'ai fait un petit livre qui, si vous le voulez, pressez-vous de le commander parce que je crois que La Fosse aux Ours n'en a plus que quelques dizaines. Il s'appelle Plaise au tribunal. C'est un... C'est une toute petite plaquette qui est une plaisanterie sur un malade qui décide que le tas de feuilles mortes ramassées à l'automne par les ouvriers de l'hôpital forme une statue éphémère et il engage l'hôpital à patrimonialiser sa statue éphémère, c'est ça, et il fait une action en justice parce que l'hôpital l'a confié à la régie d'enlèvement des ordures. Et c'est le mémoire d'avocat. Je crois que c'est assez drôle. Enfin, en général, ça plaît beaucoup aux juristes, mais je crois que ça peut plaire aussi aux cliniciens.
Vous avez parlé tout à l'heure d'étanchéité donc, entre votre pratique clinique en tant que psychiatre et le fait d'écrire, enfin, d'être écrivain.
Et justement, dans ce livre, vous vous expliquez un peu plus, je trouve. Vous dites quelque chose de cette tentation de se nourrir un peu de ce que nous disent les patients, enfin de, qu'il y a cette matière littéraire qui pourrait être un peu fascinante et qui peut aussi désaxer notre écoute et nous faire glisser. Enfin voilà, ça pose la question, qu'est-ce qu'on écoute et enfin, comment vous, vous en êtes comment vous avez fait comment vous avez modifié un petit peu cette, ce que vous appelez cette frontière un peu étanche. Et bon, là, vous êtes à la retraite, donc justement, dans, dans ce livre, vous dites que vous êtes un peu plus libéré, mais vous avez écrit aussi auparavant.
Oui, alors, c'est disons que je me repère à la chose suivante. J'essaye de faire en sorte... Je ne suis pas sûr de réussir complètement, hein, mais j'essaie de faire en sorte que les patients que je soigne n'ont pas l'impression que je les accueille en écrivain qui va utiliser leur histoire. Parce qu'ils viennent pour chercher autre chose. Ils viennent chercher un apaisement, un soulagement, une compréhension. Enfin, et alors, indéniablement, il y a des histoires qui se sont fixées dans ma mémoire. Je pense jusqu'à mon dernier souffle ou jusqu'à ma maladie d'Alzheimer, et que peut-être j'utiliserai un jour en les trafiquant. Mais en tout cas, j'ai jusqu'à présent essayé d'être très vigilant à ce que aucun patient ne vienne un jour me demander des comptes en me disant mais dans le fond vous m'avez pas soigné, vous m'avez vampirisé. Et voilà, c'est, alors, si vous voulez, ça donne une sorte de repérage, mais c'est flou comme est flou l'éthique. Dans le fond, la limite, le curseur, il est bien difficile à placer.
Hein. Je trouve que le questionnement est salvateur, justement, parce que beaucoup ne se questionnent même pas par rapport à ça. Et que, enfin, tout à l'heure, vous avez répondu aussi en disant j'essaye d'écrire et de faire en sorte que un patient, s'il me lit, ne puisse pas se reconnaître. Enfin, en même temps, on se reconnaît tous un peu dans vos vignettes. Je trouvais ça...
Alors, en fait, oui, d'ailleurs, c'est marrant ce que vous dites, parce que je crois qu'il y a plein d'exemples hein, dans l'histoire. Vous savez, en particulier la psychanalyse, les psychanalystes qui trafiquent un cas clinique pour éclairer un concept. Et puis, leur patient se rend compte que c'est eux. Mais même sous des déguisements parfois extrêmes, hein, changement de genre, etc. Et puis, à contrario, il y a des exemples aussi. Enfin, l'histoire d'Anzieux, un peu dans le même ordre d'idée, qui est assez étonnante, d'aveuglement, de cécité Lacan, qui ne se rend pas compte qu'il a fait sa thèse sur la mère d'Anzieux. C'est tout à fait étonnant. Donc voilà, ça y est, je fais des digressions et je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, c'est ça. Sur le fait que, vous avez raison, les gens qui doivent se reconnaître, ils vont se reconnaître. Même sous un déguisement, on a changé l'âge, on a changé le sexe, on a changé un tas de trucs, mais on se reconnaît. Mais c'est l'idée qu'on ne va pas les reconnaître. Je crois que c'est ça. Bon, ceci dit, je vous dis tranquillement, aucun patient n'est jamais venu me dire je me suis reconnu dans ce que vous écrivez. Alors, j'ai longtemps pensé que de toute façon, les patients ne me lisaient pas. Et puis, je m'en suis complètement sorti de cette illusion parce qu'en fait, non, les patients sont très curieux. Et il y a plusieurs patients qui, il y a quelques années, quand j'ai changé de service, les patients m'ont dit, bon, on peut vous apporter un livre à signer, à dédicacer. Et j'étais très étonné de voir que eux, qui sont en général très peu fortunés, avaient investi dans l'emplette de livres.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou on clôt cette rencontre? Merci beaucoup Emmanuel pour cette rencontre et merci à Patrick.
Merci.
Et Laurent.
quand ?
Ouais, juste une petite annonce pour vous dire que le 21 avril à Lavaur, là, avec l'association Les Psychoses, on va recevoir Pierre Delion pour une rencontre qu'on a intitulée « Qu'est-ce que je fous là ?» en écho à ce que disait souvent Houri. Et on essaiera de revenir avec lui sur un certain nombre de concepts, de choses qu'il a portées. Et je vais laisser quelques argumentaires de la soirée. Voilà, c'est juste pour faire un peu de pub pour cette rencontre. Merci. Merci beaucoup.
C'était Rencontre avec Emmanuel Venet autour de son livre Schizogramme, paru aux éditions La Fosse aux Ours.
Radio Livre Dormir.